sont agréables à écouter, ils soutiennent bien le chant que nous voulons faire monter vers Dieu. Merci à leur concours. Alors maintenant, nous allons aujourd'hui, je ne sais pas ce que nous ferons les autres après-midi, parce qu'il n'y a pas de programme pour l'après-midi absolument déterminé. Ce sont des réunions libres, on peut les concevoir il nous apparaît bon de le faire chaque fois. Mais cet après-midi, je pense qu'il faut avancer peut-être un peu rapidement dans l'étude de notre thème d'ensemble, et nous allons donc faire la suite de ce thème, c'est-à-dire l'amour, puissance de vie et de croissance. Et il faudrait maintenant que nous nous rendions compte d'une chose. Il y a bien des choses dont le Seigneur désire que nous nous rendions compte. Par exemple, il veut que nous nous rendions compte de sa grandeur, de ce qu'il est l'absolu, l'infini. C'est quelque chose qui nous échappe, tellement le Seigneur est magnifique et grand. Et puis il veut aussi que nous nous rendions compte de notre indignité. Le Seigneur, est-il écrit, est mort pour des impies. Et nous étions, que ça nous plaise ou non, ça nous convienne, des impies. Ce sont à des impies que Dieu a destiné son amour. Et alors, des impies, ce n'est pas tellement pour encore écraser ce malheureux homme issu de la chute, mais impie, ça veut dire qu'il est impropre, essentiellement, aux choses de Dieu, à comprendre les choses de Dieu, à vivre la vie véritable. Il est impropre, la chute nous a rendus impropres. Et par conséquent, la chute en Éden, n'est-ce pas, nous portons, nous, les conséquences de cela. Et c'est pourquoi nous avons d'autres conséquences à porter à la place des premières. Les conséquences à porter, c'est celle de la croix, de la crucifixion de Jésus. Nous allons changer de conséquences, il faut que ça change. Et alors, il faut que nous voyions vraiment combien nous sommes loin, 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 en tant qu'êtres humains nés sur la terre, loin véritablement de la possibilité de vivre, de comprendre, d'aimer. Cela, il faut que nous le réalisions, et nous allons nous efforcer de le réaliser maintenant avec l'Écriture. Nous allons lire dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10 et au verset 35. Chapitre 10 et verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Amen. Et plusieurs en grec, ça veut dire une multitude. Voilà donc une confrontation. Et une confrontation qui est celle de notre nature première avec celle que Dieu veut faire venir en nous et fait venir par l'action de son esprit, par sa grâce, par son amour. Il nous change, il nous transforme, il nous fait naître de nouveau. Et nous avons bien besoin, certes, de cela. Abandonner, dépouiller, il faut que nous soyons dépouillés de ce vieil homme, l'ancienne nature, et que nous puissions revêtir la nouvelle. Il faudrait que ce petit enfant, surtout, ne fasse pas de bruit. Hein? Je vous le demande, s'il vous plaît. Il y a un petit enfant, là, non? Oui. Nous avons ici deux disciples, deux frères, qui ne connaissent pas, et c'est normal qu'ils ne le connaissent pas, c'est normal, nous ne le connaissions pas, nous, je pense que vous êtes ici des chrétiens, nous ne connaissions pas ce renoncement à nous-mêmes. Jacques et Jean, fils de Zébédée, bon, ben, ils sont l'image de ce que tout le monde, tous les humains sont. Ils sont peut-être moralement, ils étaient peut-être à ce moment-là moralement très convenables, mais ils ne connaissent absolument rien du renoncement à soi. Ils sont vraiment dans la chute. Ils pensent comme on pense du fait de la chute, du fait de la nouvelle, de l'ancienne nature que nous avions, la nature d'Adam. Nous sommes tous venus dans cette famille d'Adam et nous sommes semblables à Adam et Ève. C'est ce que dit le chapitre 5 de la Genèse. Adam et Ève eurent un fils à leur image, à leur ressemblance. Ce n'est plus l'image et la ressemblance de Dieu, c'est l'image et la ressemblance d'Adam et d'Ève, c'est-à-dire de ce premier couple de la chute, issu de la chute. Alors nous sommes l'image, le vieil homme c'est l'image d'Adam et d'Ève après leur triste aventure, et la triste aventure a été de laisser la parole de Dieu pour choisir une autre parole. Ils ont changé de parole. La parole de Dieu, tiens, elle est contestée par quelqu'un, par le serpent. Hein, il a l'air intelligent, ce serpent, il sait beaucoup de choses. Bien, très bien, c'est un intellectuel, ce serpent. Alors, laissons la parole de Dieu, laissons-la, et prenons cette parole du serpent, elle est beaucoup plus sympathique. Nous serons comme des dieux. Vous vous rendez compte? Magnifique, ça. Dieu ne l'a pas dit. Bon, alors, voilà ce qu'ils ont fait. Et voilà ce dont nous avons hérité. Nous avons hérité les conséquences de ce triste choix fait dans le jardin d'Éden, qui a tout déclenché, qui a stoppé le plan de Dieu, qui aurait pu très bien être la fin dernière de l'humanité, si Dieu n'avait eu dans son dessein en vue de sauver précisément l'humanité. S'il n'avait eu envie vraiment de sauver cette créature humaine qu'il venait de faire. deux disciples, deux frères, donc, qui ne connaissent pas encore le renoncement. Or, sans ce renoncement, l'amour ne peut pas être vécu, ni en direction de Dieu, ni en direction des autres. Et dans cette vieille nature, c'est quoi alors? Mais c'est l'égocentrisme, pour lui donner le nom. On pourrait dire l'égoïsme, c'est mieux de dire l'égocentrisme. C'est-à-dire qu'on ramène tout à soi. Il y a un univers autour de nous, il y a des gens qui nous entourent, il y a un monde, mais c'est pour nous que ce monde existe. C'est pour nous, c'est pour nous servir, c'est pour notre bien. Nous allons tirer de ce monde tout ce qu'on peut en direction de nous. Voilà, n'est-ce pas, l'ancienne nature, c'est ça. C'est ça. Et il faut bien que nous fassions nous fassions attention, nous chrétiens, de ne plus conserver vraiment la moindre trace de cet égocentrisme, tout en direction de nous, c'est pour nous. Quand on voit malheureusement, et ça se voit encore, parce que, chers amis, vous savez, quand nous étudions la parole de Dieu, il faut tout dire. Il faut tout dire, il faut tout voir, il faut tout examiner. Bon, eh bien, quand on voit, n'est-ce pas, que dans l'Église encore il arrive, malheureusement, que des gens ne soient insuffisamment dépouillés, ne soient pas dans le renoncement à eux-mêmes d'une façon absolument réelle, et alors ils sont dans l'Église et ils désirent attirer des choses à eux. Si jamais quelque chose ne vient pas, si jamais les autres ne se plient pas à leur attente, à leur désir, ils vont dire « il n'y a pas d'amour dans cette église-là ». Oh non, il n'y a pas d'amour. Voilà ce qu'ils vont dire, il n'y a pas d'amour. Mais c'est eux qui n'ont pas d'amour. C'est eux qui n'ont pas d'amour. Alors vous voyez, n'est-ce pas, je vous dis ça, c'est pas pour critiquer certains, mais c'est pour montrer, n'est-ce pas, qu'il faut le dépouillement de l'ancienne nature. Autrement, c'est l'égocentrisme. Et cet égocentrisme, ça, c'est ce que le renoncement est appelé à rejeter d'une façon absolument formelle. Eh bien, Jacques et Jean, ils étaient dans l'égocentrisme, c'est normal. On ne leur fait pas un grief de ça. À ce moment-là, ils étaient là. Et le récit que nous avons lu fait éclater donc le contraste entre l'esprit de la croix. Le Seigneur Jésus, dans sa réponse, lui montre l'esprit de la croix. Le Seigneur est venu non pas pour être servi, mais pour servir, et même pour donner sa vie pour beaucoup. Voilà ce qu'il est venu faire. Voilà l'esprit de la croix. Et l'esprit chrétien, bien sûr, maintenant. Alors, contraste entre cet esprit de la croix et l'esprit du monde. Et l'esprit du monde tel qu'il se forme de par sa naissance de chair. Les deux fils de Zébédée, alors ici, se manifestent. Ils vont manifester leur égocentrisme. Ils vont demander pour eux... un privilège d'être assis l'un à la droite du Seigneur et l'autre à la gauche quand il viendra dans son règne, assis à la droite. Entre eux, ils n'ont pas encore défini qui serait à la droite et qui serait à la gauche. Ils préfèrent la droite. Ils ont bien compris que la droite c'était mieux encore. Enfin, mais peut-être se réservent-ils de débattre cela entre eux. Est-ce toi, Jean, est-ce toi, Jacques, qui va être prendre... Ah, mais tu sais, il me semble que moi, c'est plutôt ma place, n'est-ce pas? Vous voyez, on n'en finit pas. Ils veulent vraiment, n'est-ce pas, le privilège le plus grand pour eux, l'égocentrisme. Alors, demande donc d'être assis à la droite et à la gauche du Seigneur. Bon, il y a d'autres places. Bah, les autres places, pour les autres, ça. Nous choisissons ces deux places-là, bon, ben, les autres, ils se débrouilleront avec les places qui restent, n'est-ce pas? Nous prenons ces places-là. Les autres, ça n'importe pas. Ils ne s'occupent pas des autres. Et tandis que Jésus, lui, n'est-ce pas, va leur montrer comme je disais, ce qu'est l'esprit de service, l'esprit de dépouillement, l'esprit de la croix. Deux positions, par conséquent, absolument irréductibles, opposées entre celle des deux fils de Zébédée et celle du Seigneur. Positions opposées inconciliables, inconciliables, et j'insiste là-dessus, parce que on s'imagine encore quelquefois aujourd'hui dans la vie chrétienne qu'on pourrait peut-être jeter une passerelle entre la manière de vivre au milieu de la société actuelle et puis les exigences de la parole de Dieu et puis ce mode nouveau de vie. Peut-être, ça peut peut-être tout de même se concilier, s'arranger. Non, non, c'est inconciliable. Pas plus qu'on peut concilier, on peut penser à concilier, espérer concilier la position d'Ésaü et de Jacob. Ce sont deux positions absolument inconciliables. Ésaü, c'est l'homme de la chair. Bon, il pense comme on pense sous l'empire de la chair. Il marche selon la chair. Il n'est pas l'homme immoral au jugement des autres, pas du tout, mais il pense la chair. Tandis que l'autre, qui n'est pas tellement recommandable du point de vue moral, Jacob, c'est le moins recommandable des deux, mais lui, il veut penser autrement. Il pense selon ce qu'il a entendu sous les tentes de Sem, il a entendu parler des desseins de Dieu, il a entendu parler de ses promesses extraordinaires. Et il croit que ces promesses vont un jour se réaliser. Il croit, il est déjà dans l'espérance, il est dans la foi qui espère. Alors voilà toute la différence. Et c'est irréconciliable. Vous pouvez suivre après dans la Bible l'histoire d'Ésaü et l'histoire de Jacob. Vous verrez que Ésaü donne lieu à Édom, tandis que Jacob donne lieu à Israël. Alors Édom, le peuple d'Édom et le peuple d'Israël, irréconciliable, absolument irréconciliable. Deux positions opposées, irréconciliables, le langage est différent. Le langage de Jacques et Jean est absolument différent de celui de Jésus. L'esprit est différent et la recherche est différente. Et alors j'aimerais à cette occasion vous lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 1 Corinthiens. Chapitre 2 et versets 11 et 12. Simplement cela. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous alors les chrétiens, bien sûr, n'est-ce pas, les disciples de Jésus. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Vous voyez là, n'est-ce pas, ce qui est sous l'esprit du monde, sous l'animation de l'esprit du monde, est absolument étranger, différent, irréconciliable avec ce qui est sous l'empire de l'Esprit Saint. Bon. Alors il faut bien que nous comprenions ces choses. Et alors, dans leur demande, Jacques et Jean vont dire à Jésus, « Oui, nous voudrions bien avoir ces deux places, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire, c'est-à-dire quand tu seras assis toi-même sur le trône, quand tu règneras. » Seigneur, pas maintenant. parce que là, n'est-ce pas, on était sur les routes, on allait à droite, à gauche, le Seigneur n'avait même pas de quoi reposer sa tête, on logeait à la Belle Étoile, on mangeait ce qu'on pouvait, alors... C'était pas la situation de maintenant qui les intéressait. C'était la situation future. Quand tu seras dans ta gloire, quand tu seras assis sur son trône, ils ambitionnaient, eux aussi, d'être assis sur des trônes. Au bon endroit, au meilleur endroit, assis eux aussi sur des trônes. Et nous notons donc en passant que plus tard, le Seigneur offrira, non pas seulement à Jacques et à Jean, fils de Zébédée, mais à tous, à tous les vainqueurs. Il offrira à tous les vainqueurs, quoi donc ? Mais son propre trône. Celui qui vaincra s'assiera sur mon trône, comme moi je me suis assis sur le trône de mon père. C'est plus encore que ce que demandent ces petits enfants qui vont et viennent tout le temps, n'est-ce pas ? Ils laissent la porte ouverte là-bas. Nous dérange, faut pas sortir comme ça tout le temps. Alors, n'est-ce pas ? C'est plus encore, c'est beaucoup plus encore. Ce que le Seigneur offrira, s'asseoir sur son trône, à lui, c'est pas à sa droite, c'est pas à sa gauche, sur son propre trône. C'est admirable, n'est-ce pas, vous voyez ? Le Seigneur, en somme, nous réserve bien plus que tout ce que nous pouvons ambitionner sous le joug humain, bien plus, bien plus. Enfin, je dis ça en forme de digression. En passant, mais maintenant, avant le trône, Jésus se dirige vers la croix. Avant le trône, c'est la croix. C'est la croix. Et cela nous montre quel est le chemin qui mène à Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Cela nous montre le chemin. Nous connaissons Jésus, Jésus crucifié, Jésus dans ses souffrances, Jésus dans son sacrifice, alors nous le connaîtrons comme roi. Autrement dit, en me référant au prophète Zacharie, dans son chapitre 6, si nous connaissons Jésus comme le souverain sacrificateur, comme sacrificateur, nous le connaîtrons comme roi. Mais vouloir le connaître comme roi, sans le connaître comme souverain sacrificateur, impossible. Impossible. Parce que Zacharie dit bien que la fonction de Jésus comme souverain sacrificateur et sa fonction royale sont liées l'une à l'autre. Il règnera, il sera sacrificateur plutôt, il sera sacrificateur sur son trône. C'est-à-dire les deux sont liés. Alors, n'est-ce pas, c'est bien le chemin de Dieu, connaître la croix et la connaître vraiment. La connaître même dans la vie chrétienne pour connaître la résurrection et pour être en direction du Père. Voyons la prière des fils de Zébédée. Cette prière qu'ils adressent au Seigneur Jésus, c'est le type le plus accusé de la prière égocentrique. Elle repose entièrement sur la pensée du monde. Dans le monde, on jugerait la démarche de ces deux frères comme logique, normale. Qu'est-ce que vous voulez ? Dans la vie, chacun joue des coudes, hein ? Et chacun essaie d'avoir les meilleures places. On cherche, ça c'est la loi de la vie, de l'existence. Il y a une compétition dans le monde. Alors, il faut s'engager dans cette compétition. Allons-y, n'est-ce pas ? ne regardons pas trop autour de nous, il y en a qui restent en arrière, bah tant pis pour eux, ils n'ont qu'à faire comme nous, se débrouiller, etc. Voilà l'esprit du monde, n'est-ce pas? Et la prière des deux frères reflète la pensée du monde. Ils se disent ceci. Ils font, en somme, ils tiennent le même langage que cet Ésaü dont on parlait tout à l'heure, sous une autre forme. Il dit ceci, voyons, l'avenir, il y a un avenir qui s'attache à ce Seigneur qui est avec nous. Oh, il y a un avenir, il n'y a pas de doute. Ils ont tout de même une certaine foi, vous voyez. Il y a un avenir. Attention, dans l'Église, il y a des éléments qui n'ont que cette foi-là. C'est-à-dire la foi pour plus tard, pour plus tard. Alors, certainement, ce maître va faire quelque chose. Il va certainement réussir dans ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? Et il arrivera certainement à régner sur la terre. Alors, prenons les devants. Prenons les devants. Dans le royaume de notre maître, il y aura concurrence. Il y aura nécessairement concurrence, vu avec l'esprit du monde, c'est ça. Il y aura concurrence, et l'on se bousculera pour avoir les meilleures places. Soyons intelligents, soyons sages, et réservons-nous nos places dès à présent. Il n'y a pas de location, mais il n'y a pas de réservation, mais nous, n'est-ce pas, nous prenons les devants de cela, et nous nous réservons ces places. Voilà l'esprit du monde à l'œuvre, et voilà la prière abominable. Comment voulez-vous qu'une telle prière, même sous d'autres formes, mais qui reflèterait le même esprit, comment voudriez-vous qu'une telle prière puisse être agréée de Dieu? Il m'est arrivé, chers amis, dans des réunions de prière, d'être obligé d'intervenir et d'arrêter la prière de quelqu'un, disant non, non, non. Vous demandez une chose à Dieu sous la direction d'une pensée qui est celle de la chair. Comment voulez-vous qu'une telle prière puisse être exaucée? Le Seigneur a bien dit, si vous demeurez dans mon amour et que mes paroles demeurent en vous, voilà deux conditions essentielles, majeures. Alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais il faut demeurer dans son amour et que les paroles demeurent en nous. Donc ici, il y a une prière qui ne peut pas être exaucée et une prière qui elle-même reflète le caractère antichrétien et je dirais même le caractère antichrist. Elle a le caractère antichrist, cette prière. C'est une prière de prudence humaine, une prière égoïste et aussi une prière entachée de vanité. De vanité. Et l'amour est complètement absent de cette prière. L'amour est absent. Vous voyez, n'est-ce pas, la nature de... Et c'est intéressant de parler de ces deux fils-là, de Zébédée, Jacques et Jean. Parce que ensuite, ils vont être magnifiques, ces deux gens, ces deux personnes-là, n'est-ce pas? Ça va être magnifique. Jean, c'est superbe. C'est le disciple que Jésus aima. Le disciple, pourquoi est-il signalé comme cela, le disciple que Jésus aimait? Pourquoi? Mais parce que il avait la vocation à l'amour. Il l'a pas à ce moment-là. À ce moment-là, il ne l'a pas du tout. C'est le vieil homme, vraiment. C'est l'homme de la chute. Mais plus tard, il l'aura magnifiquement. Vous voyez, n'est-ce pas, ce changement extraordinaire qui s'opère. L'amour est absent, donc, de cette prière. La pensée de cette demande contient la puissance du péché et de la mort. Dans une prière comme celle-là, il y a la puissance du péché et de la mort. Attention à nos prières. Je ne dis pas qu'elles seraient peut-être aussi outrancières que celles-là, n'est-ce pas? Mais certaines de nos prières pourraient être entachées de cela. Quelquefois, voyez-vous, une maman qui prie pour ses enfants. C'est normal qu'une maman, n'est-ce pas, prie pour ses enfants. Elle est chrétienne, elle prie pour ses enfants. Mais attention à ce qu'elle va demander. Attention. Ah, Seigneur, Seigneur, tu vois, mon fils, il a des capacités, n'est-ce pas? Tu vois, il réussit. Oh, si tu voulais, Seigneur, vraiment, qu'il obtienne ceci, qu'il obtienne cela. Tu lui feras réussir ses examens, Seigneur, n'est-ce pas? Et puis tu permettras qu'il puisse être admis dans telle école, qu'il puisse ensuite avoir telle place. Oh, Seigneur, Seigneur, comme ce serait bien que mon fils soit, par exemple, un grand professeur. Qu'il soit dans la politique ou qu'il soit un diplomate. Oh, comme ça, il serait bien, Seigneur. Voilà des prières, n'est-ce pas, à rayer complètement. Mais on comprend, n'est-ce pas, la mère qui prie ainsi, on comprend. Mais il faut qu'elle stoppe elle-même. Il faut qu'elle sache stopper. Il faut qu'elle puisse dire au besoin... Attention, si mon fils est saisi par l'orgueil, il a des capacités, oui, mais c'est dangereux, ses capacités, attention, il ne faut pas qu'il soit saisi par l'orgueil. Si jamais il était saisi par l'orgueil, Seigneur, alors qu'il soit balayeur, qu'il ait l'emploi le plus humble qui soit, mais qu'il t'appartienne, Seigneur, qu'il t'appartienne au-dessus de tout, n'est-ce pas? Vous voyez la différence des choses. La prière juste et sainte, la prière juste et sainte fait plier la volonté humaine à celle de Dieu. Enfin, il faut que notre volonté plie à celle de Dieu. C'est le dessein de Dieu qui doit mouler fournir à notre prière son véritable moule. Or, la volonté de Dieu, elle, toujours, que fait-elle? Elle reflète la croix. Elle reflète la croix. Il me suffit de vous lire simplement un verset que voici, ce verset que j'évoquais à l'instant. Le chapitre 15 de Jean et le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il ne devrait plus y avoir dans l'Église de personnes ne pensant qu'à leur intérêt et à leur succès ou à ceux de leurs enfants, tels qu'ils l'envisagent eux-mêmes sous l'empire de la chair. Il ne devrait plus y avoir de personnes qui se mettent en avant, qui se mettent en premier. Jésus, lui, a renoncé à la puissance et à la gloire pour servir. Il est venu servir, il est venu donner, il pouvait rester dans son ciel. S'il s'était agi simplement de juger les hommes, il n'avait pas besoin de venir. Du haut du ciel, il pouvait juger. Mais j'ai été envoyé et je suis venu sur la terre pour sauver ce qui est perdu. Pour sauver ce qui est perdu. Il est venu pour sauver. Et sauver par quel moyen? Par la souffrance et la croix. Il a accepté l'ignominie de la croix et il nous appelle à le suivre. Nous sommes conviés à le suivre. Puis, réaffirme-t-il, mais pour servir. Et pourtant, la prophétie de Daniel est formelle. Lorsque nous lisons la prophétie de Daniel au chapitre 7, nous voyons qu'un certain fils de l'homme apparaît là, devant l'ancien des jours, et on lui remet la domination, le règne sur toute la terre. On lui remet cela. Et ses fidèles, eux aussi, recueillent ce règne.
Voilà. Alors, donc, nous avons là un Seigneur qui est bien promis au règne. Cela n'est pas douteux. Les prophéties sont absolues. Elles sont là. Elles s'accompliront. Alors, il recevra la domination, il recevra l'honneur, il recevra la royauté, et les peuples, est-il dit, le serviront. Les peuples le serviront. Mais ce n'est pas maintenant. Maintenant, c'est lui qui sert. C'est lui qui vient servir. Le chemin de la gloire et de la puissance est d'abord le chemin du sacrifice. Et ça ne peut pas être autrement. Le chemin du sacrifice. On ne peut pas bâtir le monde de Dieu, le monde parfait. Vous savez que nous sommes appelés à la vie éternelle, c'est-à-dire au règne, au royaume de Dieu, qui est un royaume absolument parfait, fondé d'ailleurs sur l'amour. Nous aurons l'occasion de le montrer. Et nous sommes appelés à ça. Et il est impossible nous le comprenons, d'établir un tel régime, un tel règne sur la terre, autrement que lorsque la sainteté est établie par la pratique de tous, la pratique de la justice de Dieu par tous. C'est impossible autrement. Avec le monde actuel, mais essayer de faire un monde qui dure, c'est pas possible, absolument impossible. Même si vous arriviez à faire un petit royaume, je suppose, où tous les gens se tiennent tranquilles, soit à peu près ça, ça ne pourrait pas durer, n'est pas possible. Le mal est dans le cœur de chacun des hommes. Et il n'y a aucun système de gouvernement qui puisse assurer une pérennité du bonheur, la pérennité du bonheur. Aucun système. Et il y a un homme politique qui était en même temps philosophe et qui avait examiné, disserté sur tous les systèmes de gouvernement possibles. Vous savez qu'on dit que la France est le pays le plus difficile à gouverner, mais la Terre tout entière est très difficile à gouverner. Il avait donc vu dans l'histoire, se servant essentiellement de documents historiques, il avait vu, chercher quel pouvait être le système susceptible vraiment d'accorder une stabilité à un État, à une nation. Et puis, il avait cherché. En définitive, voici à peu près ce qu'a été sa conclusion. Eh bien, j'en suis arrivé à admettre la démocratie, mais la démocratie, c'est le moins mauvais des systèmes. C'est le moins mauvais, c'est tout ce que je puis en dire. Le moins mauvais de tous les systèmes. Il n'y a pas de système possible. Vous voyez, n'est-ce pas, la dictature débouche nécessairement sur une explosion. Ça ne peut pas tenir. Bon. Et puis, d'autres systèmes, des systèmes plus ou moins mixtes, vous voyez aujourd'hui sur la Terre, Gorbatchev avec sa glasnost et sa perestroïka, il n'arrive pas vraiment à ce qu'il voulait. Il y a une crise économique de plus en plus aiguë en URSS, et puis alors, à la faveur de la perestroïka, il y a pas mal de peuples qui se sont sentis le besoin de bouger, n'est-ce pas? C'était peut-être légitime, bon, très bien, ils ont bougé, enfin, tout bouge. Vraiment, il n'y a aucune stabilité en vue, et il n'y en a pas. Et l'URSS sera conduite, comme la prophétie nous le montre, à se jeter dans un immense conflit où elle va s'engloutir. Voilà ce qu'elle va faire. Et ce conflit, c'est celui que nous décrivent les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel. Le conflit de Gog contre la Terre Sainte, contre cet Israël qui est rassemblé dans le pays de ses pères. Alors là, n'est-ce pas, ce besoin caché, et la prophétie nous montre bien qu'il y a une puissance cachée qui a hâte d'en arriver à ce dénouement, à ce terrible dénouement. Et il va venir ce dénouement. Il va venir. Et nous allons voir les hordes du Nord se jeter, descendre. Tout est déjà prêt d'ailleurs pour cela, sur le pays où les Israélites auront été rassemblés d'entre plusieurs nations. Ils auront été ramenés dans le pays. Ils seront là dans un pays longtemps désert. Tout cela, la prophétie le dit. Et alors, cette horde va descendre comme un rouleau compresseur énorme, va descendre, se jeter à une vitesse extraordinaire sur le pays d'Israël. Alors là, la colère montera dans les narines de Dieu, et c'est à ce moment-là que Dieu va manifester devant toutes les nations qu'il est l'Éternel. Tout cela est proche de nous, chers amis, est proche de nous. Je pense que l'Église verra ce grand événement. Alors, nous pouvons dire ceci, c'est que la gloire viendra, mais quand le sacrifice aura fait toute son œuvre. Aujourd'hui, dans le monde sans amour, le monde de la mort, les chefs tyrannisent et les grands dominent, dit Jésus, et il ajoute, il n'en est pas de même au milieu de vous, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Tel est le statut de l'Église. Le chrétien ne revêt pas la pourpre royale, et pas pour lui maintenant. Il l'a revêtira, si je puis dire, mais pour l'instant, il ne revêt pas la pourpre royale, mais il revêt le tablier du serviteur, ce tablier que Jésus a mis lui-même sur celui dont il s'est entouré en portant le bassin rempli d'eau pour laver les pieds de ses disciples. Et il a montré cela comme un exemple à l'Église. Et le Seigneur parle de boire la coupe du Seigneur. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Et puis alors, bravement, nos deux demandeurs répondent, mais nous le pouvons! Nous le pouvons! Ah oui, nous le pouvons! Et à quoi pensait-il? Il pensait aux coupes de vin, la coupe de vin du grand festin du royaume de Dieu. Il cherchait les places, il cherchait des trônes, n'est-ce pas? Et le Seigneur leur parle de coupes. Nous pouvons boire ces coupes-là quand nous serons assis avec toi dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Alors là, il y aura des coupes. Nous la boirons bravement, ces coupes-là. Ils ne pensaient qu'à cela. Voilà ce qui occupait leur cœur, les pensées de leur cœur, sous l'empire de l'ancienne nature. Mais alors, le Seigneur va leur dire, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire. Il est vrai. Et nous savons par le livre des Actes que Jacques, fut le premier apôtre à être décapité. Il va être décapité par Hérode. Il a bu la coupe. Il l'a décapité. Et quant à Jean, lui, nous savons qu'il fut conservé longtemps parce que Jésus lui avait dit qu'il ne mourrait pas tant qu'il ne serait pas revenu. Et c'est vrai, le Seigneur Jésus est revenu et nous avons cette comparution du Seigneur glorifié devant Jean. Nous l'avons au début de l'Apocalypse. Alors Jean, à l'île de Patmos, où l'empereur romain Domitien l'avait déporté, là, Domitien était un empereur terrible, Et Jean, donc, là, a vu venir à lui le Seigneur. Il était tout tremblant, et il était décomposé, il ne sentait plus ses forces. Le Seigneur a dû le fortifier pour pouvoir lui parler. Mais ensuite, et nous pouvons faire accorder un certain crédit aux éléments historiques qui nous montrent ce qu'est devenu cet apôtre Jean, est mort dans un âge avancé, on pense même qu'il a dû dépasser la centaine, eh bien, il est mort persécuté. Et lui aussi, il est retourné en Asie Mineure. Il a quitté après Domitien, il a été délivré, il y a eu un autre empereur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui l'a fait revenir de déportation de l'île de Patmos, et alors il est revenu à Éphèse, il a travaillé un temps, semble-t-il, mais il a lui aussi subi les effets de la persécution. Ils ont bu, il est vrai que vous boirez la coupe. Et nous, chers amis, nous n'avons pas à boire la coupe comme ils l'ont bu, eux, ces premiers, ces apôtres, ces pionniers, n'avons pas à boire la coupe comme ça. Mais nous la buvons tout de même si nous savons que nous sommes crucifiés avec le Seigneur Jésus pour être ressuscités avec lui. Si nous sommes ensevelis avec lui et ressuscités avec lui. Si la mort de Christ est en nous pour que la vie de Christ aussi abonde en nous. Alors là, nous pouvons dire que nous buvons la coupe du Seigneur dans ce sens-là. En conclusion, disons ceci, aujourd'hui toujours, tant de choses, tant de recherches sont incompatibles avec la croix. Encore, Seigneur, le Seigneur nous le dit, tant de choses sont encore incompatibles, et le Seigneur voudrait que nous comprenions cela, et que nous recherchions, nous, ces choses. Qu'est-ce qui, dans ma vie, dans ma pensée, dans mon cœur, est incompatible avec la croix? Qu'y a-t-il d'incompatible? Ceci, je le fais. Ceci, je le pense. Est-ce que c'est compatible avec la croix ou non? Si c'est incompatible avec la croix, Seigneur, délivre-moi de ça. Délivre-moi de cette pensée. Délivre-moi de cet attachement. Délivre-moi de cette recherche. Des choses incompatibles avec la croix. Nous, par exemple, nous sommes souvent désireux de sécurité, d'aisance dans ce monde. Bon, ça n'est pas interdit, nous ne sommes pas sous la loi, ça n'est pas interdit, c'est bien, mais pensons que Jésus ne les a jamais connus. Elle n'a jamais connu la sécurité des anges. Sa sécurité, quelle était-elle, sa sécurité? Eh bien, il la trouvait en son Père seul. Elle était dans l'accomplissement fidèle par lui du plan de Dieu. C'était là sa sécurité. La voilà sa sécurité. La carrière de Jésus fut marquée par le service, la souffrance et le sacrifice. Et il nous est dit de marcher à son exemple. C'est la bonne voie. L'aisance, bien sûr, un certain confort, nous le trouvons assez facilement dans notre France actuellement. Je ne sais pas si les choses sont toujours ainsi, mais enfin, actuellement, oui, nous sommes bien. Vous voyez ici, nous avons des chambres de haut standing, si je puis dire, n'est-ce pas? Bon, des chambres très confortables. Bon, et puis on va en augmenter le nombre. C'est bien, ce n'est pas mal, c'est bien. Mais surtout que notre cœur ne soit pas là. Que notre cœur ne soit pas retenu par ces choses, et que notre cœur soit pour le Seigneur seul, pour le service du Seigneur. La communauté chrétienne de toute époque est conviée à quoi? À marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, marcher dans l'amour. À l'exemple de Christ, elle ne peut que prier en ce sens, et il lui faut absolument refuser le chemin des multitudes du monde. Dans les derniers temps, il va y avoir une église multitudiniste, comme on dit, une église des multitudes, la Babylone. Moi, je suis étonné de ce que l'Apocalypse nous dit dans ses derniers chapitres. cette Babylone. On sent que toute l'attention est là. La chose la plus terrible sur la terre, c'est l'existence de cette Babylone, de ces multitudes, et de ce qu'elles sont, de cette mentalité qui s'est formée en elle, de ses fins. Cette Babylone est abominable, c'est la mère des impudiques, c'est véritablement l'abomination. L'abomination de la terre. Eh bien, c'est vers quoi nous allons, chers amis, et c'est de quoi il faut que nous nous protégions maintenant. Elle se forme. Le Seigneur Jésus a dit que dans le temps de la fin, une tentation, et on peut lire une séduction, il y a même d'autres termes chez les nouveaux traducteurs, une tentation, une séduction, s'étendra sur le monde entier. Et le Seigneur a dit, puisque toi, tu as gardé la parole de persévérance en moi, moi je te garderai. Ce qui veut dire, tu ne pourras pas te garder tout seul. Tu ne pourras pas te garder de cette séduction tout seul. Et c'est la séduction de la Babylone. Attention, il y a des choses qui se préparent, il y a des courants qui essaient d'entraîner des hommes, même des élus. Enfin, j'ai lu dernièrement encore des écrits où l'on s'étonnait que des élus puissent tomber dans de terribles traquenards, des élus de Dieu. Est-ce que le temps de la séduction des élus de Dieu n'est-il pas venu? Attention à cela, cette séduction s'étendra sur le monde entier. Mais toi, parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, moi aussi, je te garderai en ce temps-là. Comptons sur cette parole, bénissons le Seigneur. Amen.